Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette soirée, pour cette étude. Et je te prie que tu nous aides à comprendre quel est l'ordre que tu veux dans ton Église et comment tu veux que nous fonctionnons par notre foi et par nos œuvres. Merci Jésus. Amen.
Amen.
Je voudrais qu'on fasse une lecture dans Lévitique 19. Alors Lévitique 19, versets 23-25. Quand vous serez entrés dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez le fruit comme incirconcis pendant 3 ans. Ils seront pour vous incirconcis, on n'en mangera point. La 4e année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. La 5e année, vous en mangerez les fruits et vous continuez à les récolter. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen.
Amen.
Vous savez, je crois que quiconque comprend vraiment l'application à la vie courante, c'est-à-dire au vécu, comprend l'application des commandements, du commandement de Dieu qui dit qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, de tout son pouvoir, de tout son esprit, de toute sa force et d'aimer son prochain comme soi-même. Je crois que tous ceux qui comprennent vraiment comment appliquer ça dans leur vie, eh bien, ils peuvent agir sans aucune difficulté et sans loi supplémentaire. Vous avez vu, dans notre vie communautaire, au début, il n'y avait pas de loi. Parce que tout le monde était de bon cœur et il n'y avait pas besoin de dire ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Ça a commencé comment, les lois? Avec le frigo. Parce qu'il y avait des profiteurs qui allaient se servir dans le frigo et qui ne pensaient pas que tout ce qui était là dans le frigo, c'était pour préparer les repas. Et quand les sœurs qui allaient à la cuisine pour préparer leur repas y allaient, ben, il y avait plus qu'il fallait parce qu'il y avait des égoïstes, inconscients, mais qui n'avaient pas respecté, donc, et qui avaient mangé les choses qui étaient là. Et là, il a fallu commencer à faire une loi. On ne prend pas ce qu'il y a dans le frigidaire. Moi, je me rappelle, c'était rigolo au début, hein. Et puis, petit à petit, il a fallu faire aussi des lois. Alors, parce que les choses ne venaient pas spontanément. C'était tout petit au début, donc on n'avait pas besoin de faire des tours de rôle pour la vaisselle et des choses comme ça. C'était spontané, ou pour passer l'aspirateur, c'était spontané. Et puis petit à petit, il a fallu faire des règles parce que c'était toujours les mêmes qui faisaient, donc on s'est aperçu que c'était pas bien, qu'il y avait encore une fois de plus de l'égoïsme. C'est-à-dire qu'ils aimaient Dieu, mais les frères et sœurs, ils n'y pensaient pas que voilà, c'était toujours les mêmes qui faisaient. Donc il a fallu faire des lois. On n'a pas besoin de mettre en garde une personne qui met en pratique cette loi d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, de la mettre en garde contre, par exemple, l'idolâtrie. Il n'y a pas besoin, parce que tout acte de culte qui n'est pas consacré à Dieu le choquerait cette personne naturellement. C'est énorme. Alors l'interdiction, faut pas voler, bon ben, voilà, faut pas tuer, faut pas. Bon. C'est des lois qui ne sont pas requises si on aime vraiment son prochain comme soi-même. Et voilà quoi, c'est clair. Une personne qui aime Dieu et son prochain, il se sentirait parjure en faisant ces choses parce que il serait impensable, n'est-ce pas, ça lui serait impensable de léser son prochain. S'il le vole, il serait repris dans sa conscience. Il me semble. Et c'est parce que la vaste majorité des humains ne comprennent pas et ne gardent pas ces deux lois, tu aimeras ton Dieu tout ton cœur, tout ton âme, et ton prochain comme toi-même, et bien c'est parce que la vaste majorité des humains ne comprennent pas et ne gardent pas cela que le Seigneur a révélé beaucoup d'autres lois et de règles supplémentaires. Et toutes ces lois supplémentaires servent à montrer spécifiquement que ces deux lois, qu'est-ce qu'elles exigent ? Qu'est-ce qu'elles exigent ? Vous avez des gens qui ont une conscience un peu élastique, hein, ils ne se rendent pas compte, ou ils sont égoïstes, enfin, il y a toutes sortes de raisons qui font que, voilà. C'est pourquoi Jésus a dit que toute la loi et les prophètes sont résumés dans ces deux grands commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et aussi ton prochain comme toi-même. Alors, aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même déplace l'idée de l'amour émotion qu'on peut éprouver à celui de volonté. Tu dois aimer ton prochain. Tu dois aimer Dieu. C'est une loi. Et quand on comprend que c'est une loi, bon, on ne fait rien qui peut nuire à notre frère, à notre sœur ou déplaire à Dieu. Mais aimer notre prochain, évidemment, encore une fois, hiérarchie. Il n'y a pas d'hiérarchie. Si, il y a une hiérarchie. C'est chacun dans son rang. Moi, je vous mets au défi, je suis sûr que Marie-Claire, elle n'aime pas son mari la même chose que son fils. C'est autre chose. Moi, je n'aime pas ma fille comme j'aime ma femme, ou comme j'aime mon gendre, ou comme j'aime mes petits-enfants. C'est différent. Comme j'aime mes frères et sœurs de la communauté, comme j'aime les gens du monde, ou comme j'aime mes ennemis. Il ne faut pas pousser. La qualité de mon amour pour ma femme, c'est autre chose que l'amour que j'ai pour mes ennemis. Chacun doit donc comprendre ça, et chacun a droit à sa part d'amour, mais c'est pas la même part pour tout le monde, et il faut le comprendre. Ça devrait pas, on devrait même pas l'expliquer, c'est dans la nature, mais bon, voilà. Le texte que nous avons lu au début nous donne une très très bonne illustration de cette chose. Dieu parle de fruits incirconcis. Alors ça, c'est une métaphore. Que penser de ça? Eh bien, l'utilisation métaphorique de la circoncision là-dedans est expliquée par le texte lui-même. Elle indique quoi? Eh bien, que le fruit, il est aux yeux de Dieu disqualifié, il est impropre. Je suis sûr que si quelqu'un a désobéi et goûté le fruit, il a trouvé qu'il était aussi bon que... Voilà. Mais si Dieu a dit que, alors c'est comme ça. D'accord? Dans Lévitique 26-40, Dieu parle de certaines personnes de son peuple qui ont été parjures, c'est-à-dire qui avaient fait une promesse de fidélité à Dieu et au peuple de Dieu. Parce que quand on fait une promesse à Dieu, on fait aussi de la promesse au peuple de Dieu. Israël, c'était une nation théocratique et l'Église, c'est une communauté. On vit ensemble, c'est un État dans l'État en quelque sorte. Et quand on fait une promesse de fidélité à Dieu, on fait aussi la promesse de fidélité à son peuple. Et certaines personnes ont trahi leur serment, ont été parjures. Ils se sont révoltés contre, en général, comme ça, ils se révoltent contre les conducteurs. Ils ne vont pas se révolter contre la concierge du 28, il n'y a aucune raison. Là, ce n'est pas des révoltes, c'est simplement des mésententes qui peuvent se régler. Mais là, on attaque le conducteur. Et Dieu les punit parce que Dieu châtie les siens. Alors ceux qui ne sont pas punis, qui sont parjures et qui ne sont pas punis, c'est parce qu'ils sont tout simplement, ils ne sont pas de Dieu, puis c'est tout. Donc, voilà. Et une fois qu'ils ont été brisés, alors ils confessent leur péché, le péché de leur père, les transgressions commises envers Dieu et la résistance qu'ils ont opposée à Dieu. Ils ont résisté à Dieu, alors Dieu leur résiste. Tout ça, vous trouvez dans Lévitique 26, 40 à 41. Je ne fais que paraphraser. Et il les emmène dans le monde hors d'Israël. Vous avez vu? C'était toujours ça la menace. Si tu désobéis, eh bien je te disperserai. Et voilà, les dissidents, les rebelles, ceux qui ne se soumettent pas à la vision du serviteur de Dieu, placés par le Seigneur, eh bien ils sont jetés dehors. C'est pas nous qui les jetons dehors. Ils se jettent dehors par leurs mauvaises actions, hors d'Israël, hors de la vraie ecclésia, c'est-à-dire la vraie assemblée, la vraie communauté. Et où est-ce qu'ils sont jetés? Ils sont jetés dans le pays de leurs ennemis, c'est-à-dire dans le monde. C'est-à-dire qu'ils vont recommencer à vivre comme les gens du monde, c'est-à-dire pas du tout avec les principes, comme par exemple les Juifs avec Israël. D'ailleurs, moi je trouve que les Juifs, un vrai Juif, c'est-à-dire un chrétien, il devrait aller vivre en Israël. Mais maintenant, voilà. Bon. Au pays, ils sont dispersés au pays de leurs ennemis pour vivre au milieu des païens. Alors Dieu dit... Leur cœur incirconcis s'humiliera. Ah, voilà, maintenant vous avez des fruits incirconcis, des cœurs incirconcis. Et ils payeront la dette de leur injustice, de leur iniquité. Ils payeront. Tout se paye. Il n'y a rien qui est laissé comme ça. Jésus a payé le prix, mais si quelqu'un fait partie du peuple de Dieu et se rebelle, sachant tout, il doit payer jusqu'au dernier cadran. Il doit payer jusqu'au dernier cadran. Et Dieu les regarde comme des incirconcis. Il y a des fruits incirconcis, maintenant il peut y avoir des personnes incirconcis, ceux qui se révoltent contre l'ordre établi par Dieu. Ce sont ceux qui sont entêtés, ou alors qui ne sont pas mûrs pour écouter les exhortations divines. Mais s'ils ne sont pas mûrs, c'est bien parce qu'ils l'ont voulu, hein, c'est parce qu'ils sont restés en arrière. Ils disent « aimer Dieu », mais ils ne croient pas le prophète vivant. Ah ça, pour aimer Dieu, ils aiment Dieu, tous, ils aiment Dieu. Hein, voilà, Noé, c'était un homme qui avait été envoyé pour annoncer ce qui allait se produire sur la terre. Et à qui parlait-il? Il parlait à des gens qui savaient que Adam était le premier homme. Hein. Ils savaient tout ça. Mais son message n'a servi qu'à sauver sa propre famille, c'est tout. Pourquoi? Parce que sa connaissance, ses révélations ont été rejetées par les habitants de la terre. Pourquoi? C'était un homme vivant, c'est tout. Ah, s'il avait été mort, peut-être on aurait écouté là. Mais il était vivant, c'était son tort. Tous ces gens savaient, comme je vous dis, que l'histoire d'Adam et Ève, c'était pas vieux, hein. C'était pas vieux. Ils se racontaient ça. Il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas la lecture. Ils parlaient de ça le soir avec les patriarches. Ils savaient qu'Adam avait été fait à l'image de Dieu. Ils savaient que Enoch avait marché avec Dieu pendant 365 ans et puis qu'il avait été enlevé au ciel sans goûter à la mort. Ils savaient, tout le monde savait ça. Mais ils n'ont pas pu accepter la nouvelle révélation, c'est-à-dire ce prophète qui se présente devant eux et puis qui leur parle. Ils ne veulent pas. Ils croyaient aux anciennes révélations, croyaient en Dieu, mais hors de question d'avoir des nouvelles révélations. Et le déluge les a emportés. Voilà. C'est terrible, hein? C'est terrible. Le même principe s'est manifesté chez les Juifs quand le Sauveur est venu en chair. Ils se vantaient des révélations anciennes, ils ornaient les sépulcres des morts, des prophètes et tout, c'est eux qui les avaient tués, hein, remarquez. Mais d'ailleurs, Jésus leur fait le reproche, mais oh là là, ils en faisaient toute une histoire. Et puis, ils payaient la dîme, de l'amende, de la nette, enfin, ils faisaient des interminables prières. Et puis, ils couraient toute la terre et la mer pour faire des prosélytes, j'invente rien, tout ça, c'est dans la Bible, ceux qui connaissent leur Bible savent. Mais lorsque la nouvelle révélation est sortie de la bouche du grand « Je suis », c'est-à-dire de Jésus, ben, ils n'en ont pas voulu. Ils n'en ont pas voulu. C'était trop pour eux. Ils ont crié « Autre, qu'on l'ôte d'ici, crucifie, crucifie !» Et on retrouve la même attitude et le même langage aujourd'hui. On bénit la révélation ancienne, mais ce qui est nouveau, ah non, les grands patriarches, on croit en eux, ah voilà, mais on ne peut pas tolérer les nouveaux. Ah non, les nouveaux, on n'aime pas. Et ça a toujours été comme ça. Donc ceux qu'on considère comme les patriarches, ils étaient persécutés parce qu'à l'époque, ils étaient les nouveaux. C'est comme ça, c'est comme ça. Les incirconcis, le monde, a toujours pris les faux prophètes pour des vrais. Malgré que ce qu'ils disent, ça ne s'accomplit pas. Enfin, une fois sur 10, il faut quand même, il y a la loi de Pareto, quoi. Enfin, bon. Mais ceux qui étaient envoyés de Dieu, ils ont toujours pris pour des faux prophètes. C'est comme ça. À tel point que les vrais prophètes ont été tués, lapidés, torturés, emprisonnés, ruinés, tout ça dans l'hébreu. Et ils devaient se cacher dans les déserts, ils devaient se cacher dans les grottes, dans les montagnes. C'est ce que Hébreux 11, 38 nous dit. N'est-ce pas? Eh bien, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les gens, ils préfèrent chérir et honorer et soutenir les voleurs, les fanfarons, les hypocrites, les faiseurs de division, les imposteurs, bref, les hommes les plus vils. Ils préfèrent ça, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Et aujourd'hui, les gens disent, tous ces gens-là, ils disent, ah mais Jésus, je ne t'abandonnerai jamais, et puis alors je serai toujours à tes côtés, je t'aime Jésus, et puis ils lèvent les bras au ciel, et puis ils font des prières, et tout ça c'est merveilleux. Mais dès que vous leur enseignez certains mystères du royaume de Dieu, mystères qui sont tenus en réserve dans les cieux pour être révélés à la fin, eh bien, ils sont les premiers à vous lapider. C'est comme ça. C'est comme ça, puis c'est pas autrement, puis c'est pas étonnant. Alors, ils sont très sages, n'est-ce pas? Ils sont devenus très sages parce qu'ils connaissent toutes les choses anciennes, tout ça, trop sages pour recevoir l'enseignement. Et, eh bien, en conséquence, ils périront dans leur ignorance. Voilà. C'est tout ce qu'ils disent. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et à la résurrection, eh bien, ils connaîtront leur erreur et puis ils se lamenteront. Et puis voilà. Mais vous ne pouvez rien leur faire entendre. Là, même si maintenant ils m'écoutent, ils ne croient pas. Ils disent non, 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 c'est toi le faux. C'est comme ça. C'est comme ça. En ce moment, ils sont en train de sceller la porte des cieux en proférant des « si c'est vrai, que Dieu me le révèle ». Et là, je croirais. Mais ils ont toujours fait ça. Ils ont toujours fait ça. Ça a toujours été comme ça. Mais ces gens-là ne peuvent pas séduire les élus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pas possible. Fruits incirconcis, cœur incirconcis. Ils parlent avec des lèvres incirconcis. Ils écoutent avec des oreilles incirconcis. Ils sont incapables d'entendre. Ils sont incapables d'être attentifs. Pendant qu'on les enseigne, ils pensent à autre chose, ils font des points de référence dans leur tête et ils n'écoutent plus, ils sont incapables d'être attentifs. La parole de Dieu est pour eux un opprobre et ils ne trouvent aucun plaisir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jérémie 6, 10 ou 16, je ne me rappelle plus. Alors oui, ah, ils aiment la parole des prophètes morts. Ah, les prophètes morts, ils aiment. Mais ils n'aiment pas la parole de Dieu des prophètes vivants. Ah, mes frères et sœurs, tous ceux qui se dressent contre un vrai serviteur de Dieu sont immanquablement, un jour ou l'autre, le poids de leur iniquité sur leur propre tête. Et c'est pourquoi il faut prier pour eux, il faut les plaindre. Moi, je parle avec hardiesse, avec fidélité, avec autorité, je sais ce que je dis. On a encore retrouvé des vieilles cassettes qui datent de 79. Je n'ai pas bougé d'un iota. Toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui m'anime. Et quand je viens révéler quelque chose qui semble nouveau, ça n'est pas nouveau. C'est écrit, mais ils ne veulent pas le croire. Ils ne veulent pas le comprendre. Mais c'est toujours dans la ligne. C'est toujours dans la ligne. Et Dieu sait si le Seigneur prend des gants pour annoncer. J'ai encore entendu dernièrement, attention, je vais passer la vitesse supérieure. Accrochez-vous. Confiez-vous dans le Seigneur. Tout. Non, on jouera Dofus à la place. Moi, je comprends ma mission. Le Dieu Tout-Puissant est mon bouclier. Et je dis, comme la Bible dit, que peut me faire un homme puisque Dieu est mon ami. Voilà, c'est tout. D'abord, quel ennemi ai-je? Ceux qui n'ont pas d'amour pour la vérité que Dieu est en train de rétablir. Ils ne vont pas me tuer, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont plus le droit. Il y a encore quelques centaines d'années, ils avaient le droit, ils m'auraient mis sur un bûcher, maintenant ils ne peuvent plus. J'ai aucun autre désir que de faire le bien. Il me semble que les preuves sont là. Mais mes frères et sœurs, si je n'avais pas été appelé à cette œuvre, si je n'y avais pas participé toutes ces années, eh bien franchement, je ferais marche arrière. Tant ces incirconcis me découragent. Mais je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que je n'ai aucun doute sur la véracité de mon appel, aucun doute sur la véracité de mes révélations. Et quand il m'arrive de pécher, parce que ça arrive à tout le monde, je me mets en ordre avec Dieu humblement tout de suite. Alors, on ne vient pas me raconter des histoires. C'est comme ceux qui critiquaient Osborne, vous vous rappelez. Et puis encore aujourd'hui, il y en a qui critiquent pour des niaiseries, parce qu'il avait mis des bottes en python pour monter sur l'estrade pour prêcher, parce qu'il avait une moustache comme D'Artagnan, parce qu'il avait prêché « Semez, vous récolterez », parce qu'il croyait fermement que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, il ne prêchait jamais la maladie, mais il prêchait toujours la guérison. Et il dérangeait, il avait une perruque. Il avait une perruque. Mais ceux qui critiquaient, ils n'avaient pas fait le dixième de ce que lui, Osborne, avait fait dans sa vie. Et ça a toujours été comme ça. Ça vient toujours du bas. Ça vient jamais de... Mélodie se rappelle, elle était encore jeune, on était allé chez un de mes professeurs qui s'appelle Jules Marcel Nicole, qui est une sommité en France. Est-ce que Jules Marcel Nicole m'a repris, m'a critiqué? Est-ce qu'il a critiqué Branham? Tu avais posé la question, que pensez-vous de frère Branham? Il n'avait porté aucun jugement. Pourquoi? Les hommes qui sont inspirés, qui sont en haut, ne jugent pas les serviteurs de Dieu. Ils savent que c'est dangereux. Quand les hommes apparaissent et édifient sur le fondement d'autres personnes, alors ils prennent la responsabilité de ce qu'ils font parce qu'ils sont sans autorité venant de la part de Dieu. Et lorsque la pluie tombera et que le vent soufflera, leurs fondements se révéleront être du sable et ça tombera. Leur édifice sera de la poussière et ça sera terminé. Frères et sœurs, est-ce que j'ai édifié sur le fondement d'un autre? Non, j'ai édifié sur le fondement de la parole de Dieu et des prophètes que j'ai rencontrés et que j'ai cru. Et j'ai bien fait de les croire. Des prophètes vivants. Nous avons reçu et accepté la vérité que le monde chrétien possède. Nous avons la même doctrine au sujet du salut que les protestants, nous avons la même doctrine au sujet du baptême que les baptistes, nous avons la même doctrine au sujet de l'esprit que les pentecôtistes, nous avons la même doctrine que le prophète Branham avait au sujet de toutes ces choses, et nous avons la révélation de ce que Dieu a rétabli aujourd'hui au sujet de son évangile, parce qu'il est en train de le rétablir. Mais tout ce qui est passé, nous le croyons aussi bien qu'eux, mais nous n'avons pas mis un stop. Nous n'avons pas dit maintenant, Dieu a fini de parler. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fini de parler. Il ne reviendra pas avant ce rétablissement. Et alors, se croire la septième trompette, excusez-moi, mais c'est déjà méconnaître totalement le message eschatologique. C'est se tromper aussi grossièrement, presque aussi grossièrement que l'autre qui annonce que Jésus va revenir chercher son épouse le 28 septembre. Là, vous avez vu, c'est une grande mode maintenant. Ça fait peur des gens comme ça. Comment est-ce que... Et les foules suivent ça. Ils y croient. Plus c'est bête, plus ils y croient les gens. Par contre, quand il s'agit de quelque chose de fondé sur les Écritures, non. Dieu nous fera triompher, mes frères et sœurs. Le fruit incirconcis, les cœurs incirconcis, les lèvres incirconcises, les oreilles incirconcises, ce sont des gens qui ne remplissent pas leur fonction. Ils ne sont pas là où ils doivent. Ils ne remplissent pas leur fonction. Ces gens incirconcis sont des gens convertis, mais pas nés de nouveau. Je le dis vraiment. Ils sont convertis, mais ils ne sont pas nés de nouveau. C'est quelque chose que j'ai appris tout jeune dans ma foi. C'est Sœur Camélia qui m'avait appris ça. Il y a des gens qui sont convertis, ils ont l'air plus saints que moi. Ah là là, qu'est-ce qu'ils sont saints! Ils prient tous les jours, 3 heures. Enfin, je ne sais pas. Allez, mettons une demi-heure. Enfin, ils ont l'air beaucoup plus saints que moi. Ah, ils vont pas avoir un mot plus haut que l'autre. Ils sont convertis, mais ils ne sont pas allés de nouveau. La preuve, c'est qu'ils font des choses qui ne glorifient pas Dieu, ils divisent, etc. Ils ne comprennent rien au système du royaume de Dieu. Ils ne comprennent rien à la structure du royaume de Dieu. Ils ne conviennent pas pour être utilisés par Dieu, ni par le peuple de Dieu consacré, obéissant, respectant ses deux lois, aime Dieu et aime ton prochain. On a une question maintenant. Paul aimait-il son prochain quand il disait dans 2 Thessaloniciens 3:10 que celui qui ne travaille pas ne mange pas? Est-ce qu'il n'aimait pas les chrétiens qui ne travaillaient pas? Non. Mais il disait, c'est pas normal que celui qui ne travaille pas mange autant que celui qui travaille. Qu'il aille bosser, il pourra manger. Oui, mais alors là, c'est pas possible. Celui qui ne travaille pas et qui mange comme ceux qui travaillent sont des voleurs, des sans-vergogne. Où est-ce que c'est écrit ça? Dans Jude 12, Quand on est pasteur, on est bien obligé de voir ces choses et de mettre de l'ordre dans ces choses-là. Alors après, vous avez des gens qui ne sont pas contents. Oui, alors cette personne, elle est pauvre, et puis tu l'enfonces, et non. Est-ce que Paul n'aimait pas ces gens-là? Voulait-il qu'ils ne mangent pas? Paul favorisait-il les riches travailleurs? Paul n'aimait-il pas certains chrétiens quand il dit que certains méprisent l'autorité? Jude 8. Ils méprisent l'autorité. Quelle autorité? Les autorités spirituelles. Un pasteur, c'est une autorité spirituelle. Mépriser un pasteur dans l'exercice de sa fonction, c'est mépriser l'autorité. Ils ne s'en rendent même pas compte. Non, il les aimait et il les avertissait du danger qui les guettait. C'est tout. Et il termine en disant, c'est dans Jude, hein, c'était pas l'apôtre Paul, c'était Jude, excusez-moi. Il disait en terminant, ce sont eux qui provoquent des divisions. Jude 19. Ce sont eux qui, ces gens-là, qui provoquent des divisions. Ils ne sont pas à leur place. Ils sont comme les fruits incirconcis. Ils sont impropres à la consommation pour l'œuvre de Dieu. Ils sont là, incirconcis, méprisant l'autorité. Alors, veillons et prions afin de ne pas nous trouver de leur nombre. La Bible dit, ce qu'ils font ressemble tellement à la sainteté, ce qu'ils font ressemble tellement à la vérité, que si c'était possible, les élus seraient séduits. Mais grâce à Dieu, merci Seigneur, on n'est pas séduits. Pourquoi? Mais parce que on fouille les Écritures, on sonde les Écritures, on sonde le cœur de Dieu, et puis on regarde le fruit. Paul aimait les chrétiens convertis, qui étaient nés de l'Esprit, et il les avertissait aussi. Il avertissait les disciples convertis, nés de l'Esprit, qui souffraient de vivre au milieu de ces prétentieux convertis qui n'étaient pas nés de nouveau, et qui avaient des jugements charnels. Alors, Paul les encourageait, comme je vous encourage aujourd'hui, à porter du fruit à la gloire de Dieu. Dans l'Église primitive, il y avait déjà cette sorte de personnes qui contestaient tout ce que les envoyés de Dieu disaient. Ça a toujours été, l'apôtre Paul a été vraiment ennuyé avec ça. Et dans l'Église, il y en a qui disent qu'il a attrapé une maladie psychosomatique et c'était ça l'écharde. Un démon qui le frappait, qui le souffletait. C'était pour le tenir dans l'humilité, mais c'était une maladie, et il le dit, c'était toutes les souffrances occasionnées dans les églises. Quelles souffrances? Les souffrances de la part de ces gens convertis, mais pas nés de nouveau. Tout d'un coup, ils ont une compréhension sur les Écritures et ils croient que c'est une prophétie. Et ils croient que c'est une révélation. Non, ils ont une compréhension, c'est tout, sur quelque chose. Ça a toujours été. Noé a montré son fruit. Abraham a montré son fruit. Moïse a montré son fruit. De nos jours, que chacun montre son fruit, c'est-à-dire ses résultats, sa production. Montre-moi ta foi et je vais te montrer mes œuvres. Vous vous rappelez, j'ai dit ça il n'y a encore pas très longtemps. Est-ce que vous avez lu le verset du calendrier du jour? C'est ce verset-là, ces deux versets qui m'ont inspiré ce message. Vous avez Romains 3, 28, où il est dit, c'est Paul qui parle, voilà donc ce que nous affirmons, l'homme retrouve sa vraie position vis-à-vis de Dieu, il devient juste à ses yeux, non pas en accomplissant les œuvres qu'exige la loi, mais en plaçant sa confiance en Dieu et en acceptant ce qu'il lui offre. D'accord? Et puis, il y a un deuxième verset, même jour, sur ce calendrier, c'est Jacques 2, 24, où il dit, « Vous voyez donc qu'un homme est considéré comme juste à cause de ce qu'il fait, et pas seulement à cause de ce qu'il croit. » Alors, est-ce que Paul et Jacques avaient une doctrine différente? Non, monsieur. Ils avaient la même sorte de foi et la même doctrine. Romains, dit, nous devenons justes, non pas en faisant le bien, mais en ayant la foi en Dieu. Et Jacques dit exactement le contraire, nous devenons justes à cause de ce qu'on fait et pas seulement à cause de notre foi. Ça demande de l'intelligence, ça demande de la subtilité, ça demande le secours du Saint-Esprit pour comprendre ces choses. Qui dit vrai, tous les deux? Si tu crois, tu es justifié. Mais à partir de là, ce que tu fais peut te disqualifier ou te laisser dans ta qualification. Si par exemple, tu te rebelles contre le serviteur de Dieu, après avoir été justifié, tu es un créateur de division, tu te disqualifies. Vous comprenez? Si tu voles ton frère, tu te disqualifies. Si tu méprises les pauvres et puis que tu favorises les riches, tu te disqualifies. Mais si tu ne reprends pas le pauvre qui ne travaille pas, tu te disqualifies aussi. Vous comprenez? Il y a toutes ces subtilités. Il faut voir toutes ces vérités. Il faut se rendre compte de tout cela avant de se permettre de juger. Et pourquoi est-ce qu'on jugeait Paul? Oui, Paul, c'est une espèce d'hypocrite. Quand il est là, il est tout petit et il n'ose pas parler, il n'ose rien dire. Alors après, il nous envoie de ses lettres, il nous balance toutes ses vacheries. Hein? C'est pas ça que je paraphrase, mais c'est ça. C'était un hypocrite, Paul. Hein? Devant tout le monde, oui, alléluia, tout ça, tout gentil, tout faible. Et puis après, il écrit des lettres. Et ben voilà. Alors non, on ne veut pas d'hypocrite chez nous. L'apôtre Paul, il n'est pas bien, l'air. On ne disait pas, l'apôtre Paul, il prêche un faux évangile. Je suis quand même aussi un petit peu avec la circoncision et tout ça. On l'a aussi beaucoup accusé. Mais voilà, quoi, je veux dire, on y trouvait des défauts personnels. Et mes frères et sœurs, il faut que nous sachions faire la différence entre un envoyé de Dieu et quelqu'un qui n'est pas envoyé de Dieu. Un envoyé de Dieu n'est pas parfait et il demande qu'à l'être et il compte sur l'aide des frères et sœurs pour l'être. Comme vous, vous comptez sur l'aide des frères et sœurs pour être parfait. Vous voyez, je reviens à ça, il y a trois catégories. J'ai dit des collèges. Il y a le collège des disciples, on est tous dedans. Il y a le collège des prêtres. On est tous prêtres. Oui, mais non, parce qu'il y en a qui n'agissent pas, donc ils se disqualifient. Ils font autre chose. Et puis, vous avez le collège des ministres. Eh bien, quelqu'un du collège des prêtres ou des disciples n'a pas le droit d'aller vers Moïse et lui dire, dis donc, Moïse, qu'est-ce que c'est que cette bonne femme que tu as pris? Il n'a pas le droit, même si Moïse a tort. Vous comprenez? Et même si j'ai tort, quand j'ai tort, j'aime être repris par vous, avec amour et fermeté. J'aime. Est-ce que je ne l'ai pas déjà prouvé? Bien sûr. Alors faites les choses d'une façon correcte. Faites les choses d'une façon correcte. Ne créez pas de division. Ne vous laissez pas avoir par ça. Vous savez qu'en ce moment, dans les églises, ça va mal un peu partout. Ça va mal un peu partout. Il suffit de regarder un peu, de fouiller sur Internet, de voir, de parler avec des pasteurs. Je parle avec des pasteurs, ils me téléphonent. Ça devient très grave. L'Église est secouée. Et c'est toujours le même problème. Le problème qui était autrefois ressurgit au travers de nouvelles personnes. Mais c'est les mêmes vieux démons. C'est les mêmes vieux démons. Je vous avais déjà enseigné ces choses. Beaucoup dormaient pendant que je parlais. Beaucoup ne faisaient pas attention, pensant, ils nous gavent. Eh bien, voilà, voyez le résultat aujourd'hui. C'est grave, n'est-ce pas? Mais faisons confiance à Dieu, soyons fidèles, Dieu nous justifiera. Dieu nous mettra là où il veut, comme il veut, quand il veut, et nous n'aurons plus qu'à nous réjouir. Amen. Merci Seigneur Jésus de nous donner confiance. Et je te prie pour tous ceux qui écoutent ce message et qui sont des gens qui sont insoumis dans l'Église, qui font des problèmes aux pasteurs, et il y en a plein partout. Mon Dieu, reprends-les. Et permets qu'à la place d'être des gens comme ça, ils deviennent des hommes ou des femmes de prière qui prient pour le serviteur de Dieu qui a été placé dans l'endroit où ils sont. Ou qu'ils le quittent, mais qu'ils ne créent pas de division. La division est une chose abominable que Dieu déteste. Merci Seigneur, parce que tu nous avertis et nous voulons continuer à marcher selon ton commandement et à être fidèles à ce que tu nous as dit. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. Rendez compte, le diable a même essayé de ficher en l'air notre logiciel au sujet du baptême pour les morts. Il est en colère avec ce que nous faisons. Il déteste ce que nous faisons. Mais, grâce à Dieu, c'est un pirate qui a fait ça. C'est quelqu'un qui a piraté. Et grâce à Dieu, tout a été récupéré. Amen. Ben, c'est presque impossible normalement. Mais Dieu a permis. Et merci à tous ceux qui ont collaboré dans ce travail. Vous voyez, aujourd'hui, c'est une journée un peu pénible, un peu difficile, parce que ce matin, j'étais réveillé par un « bing ». C'était mon frère qui m'écrivait « Ça fait 50 ans aujourd'hui ». Et j'ai tout de suite compris. Ça fait 50 ans aujourd'hui que mon père est décédé. Et ça fait de la peine encore. Mais j'ai une joie. C'est que Alain Mesme m'a baptisé à la place de mon père et je crois que ce baptême est valable parce que je sais que Alain Mesme aime Dieu, même s'il est un petit peu dans l'errance en ce moment, mais il aime Dieu et je ne vais pas me faire rebaptiser pour mon père sous prétexte que c'est Alain qui m'a baptisé, pas du tout. Je crois qu'il aime Dieu et que son baptême, le baptême qu'il a fait, même s'il a tout renié depuis, eh bien je crois qu'il est valable. C'est comme je ne vais pas me faire rebaptiser parce que l'homme qui m'a baptisé a mal fini aussi. Vous comprenez ce que je veux dire par là? On n'a pas à juger, à condamner. Il faut savoir qui on est et ce qu'on fait. On est justifié par ce qu'on fait, pas seulement par la foi. Alors montrez-moi, qu'est-ce que vous faites? Des réunions, des prières, des jeûnes, ça ne porte pas de fruits. Donc c'est, excusez-moi, rien. Pipeau, incirconcis. Amen. Cette semaine, j'étais en Suisse avec Michou, on a fait l'aller-retour, c'est pour ça qu'on est aussi un peu fatigué. On a fait l'aller-retour en Suisse parce que nous sommes allés faire l'enterrement de Sylvie Wild, une très chère amie qui m'avait demandé de prêcher lors de son enterrement et nous sommes allés là-bas. Et il y avait, Michou a compté 75 personnes, c'était tous des inconvertis. Et j'ai pu leur prêcher l'évangile bien clair, net. Et à la sortie, un monsieur qui s'appelle Bernard Roger, qui est un fan de Sylvie Vartan, si vous voulez rencontrer cet homme, vous allez dans n'importe quel concert de Sylvie Vartan, il est tout devant, à tous les soirs, tout le temps. Tout son pognon passe là-dedans. C'est un vrai fanatique. Mais j'aime beaucoup cet homme. Il doit avoir mon âge à peu près, hein. Et il était là avec beaucoup d'autres fans et beaucoup d'autres amis de la famille de Sylvie Wild qui est décédée d'un cancer. Et il a lu un texte qui était écrit par le médecin et qui disait que ça tenait du miracle que Sylvie Wild a vécu encore 7 ans avec un tel cancer. Parce que normalement, il y a 1% qui vivent 5 ans, mais pas plus. Elle a vécu 7 ans. Et Sylvie nous disait toujours, je sais que c'est vos prières, je sais que c'est vos prières, je sais que c'est vos prières. Et là, j'ai pu prêcher. Et ce matin, Bernard, en sortant de l'église, Bernard me dit, est-ce que je pourrais avoir, j'ai vu que tu as des notes, est-ce que je pourrais avoir les notes, parce que c'était tellement beau ce que tu as dit. Mais j'ai dit, mais j'ai mieux que des notes. Il dit, ah bon? J'ai dit, oui, je l'ai enregistré. Ah, est-ce que je pourrais avoir l'enregistrement? J'ai dit, mais bien sûr. Donc, Eric Jacques m'a fait un enregistrement MP3, j'ai pu lui envoyer ça par mail. Et puis il m'a dit, ce matin il m'a téléphoné, il m'a dit, Michel, mais est-ce que c'est beau? Il y a plein de gens qui le veulent, est-ce que tu permets que je l'envoie aux autres? Parce qu'ils le veulent, ils le veulent, ils le veulent. Et je suis sûr que même Sylvie Vartan va la voir, puisque elle connaissait bien Sylvie Will, elle connaissait bien Bernard Roger, elle connaissait bien la plupart de tous ses fans. Et donc c'est un témoignage. Dieu nous envoie toujours témoigner dans des endroits vraiment bizarres. Hein? Pas simplement chez tonton ou chez tata. Amen. Amen. Ça va porter du fruit, je le crois. Déjà, Sylvie est sauvée. On va se faire baptiser pour elle, là, bientôt, peut-être dimanche. Nous croyons la vérité. la vérité qui se trouve dans la Bible et qui est révélée à la fin des temps. Elle doit être révélée. Elle ne doit pas être reçue. Elle doit être révélée. Ceux qui la reçoivent sont ceux qui ont les oreilles circoncis, ceux qui ont un cœur circoncis, ceux qui ont des yeux circoncis, ceux qui ont une bouche circoncis. Les autres, je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas comment ils font pour ne pas comprendre. Je ne comprends pas comment ils font pour ne pas comprendre. Ils sont obscurcis dans leur intelligence. Et que Dieu les bénisse, que Dieu les aide, parce qu'ils vont avoir des problèmes. Ils vont avoir des problèmes. On ne touche pas aux choses de Dieu de cette manière-là, comme ils ont fait, avec une telle insouciance, sans ensuite être châtiés, à moins de ne pas être un enfant de Dieu. S'ils ne sont pas des enfants de Dieu, toute leur vie sera magnifique, bleu ciel, merveilleuse. Ben, c'est terrible, mais je ne leur souhaite pas. Je leur souhaite plutôt qu'ils soient châtiés quand ils se rendent compte et qu'ils se repentent, qu'ils demandent pardon à Dieu. Bon, moi, je m'en fous, mais qu'ils demandent au moins pardon à Dieu. Amen. Amen. Seigneur Jésus, veuille nous bénir, veuille nous garder dans la paix et permettre que nous puissions être ouverts à recevoir encore des choses que tu veux nous dire. Merci, Seigneur Jésus. Bénis nos frères et sœurs sur le net. Merci, Seigneur, de leur patience. Ils écoutent ces messages qui sont un peu spéciaux. Ce sont des messages qui s'adressent surtout à ma communauté, à la communauté du sanctuary, mais je pense que ça peut aussi faire du bien à certains chrétiens partout dans le monde, de tous ceux qui viennent écouter. Merci, Jésus. Amen.
Amen. Amen.